Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis à Lourdes et plus particulièrement, je suis à la Cité Saint-Pierre que vous connaissez puisque nous avons déjà fait une émission pour vous présenter cette belle Cité Saint-Pierre de Lourdes. Et si je suis à la Cité Saint-Pierre, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une conférence, Laudato Si, qui était proposée par le père Arnaud Favard. Et puisqu'il est de passage à Lourdes, je souhaitais vous faire rencontrer le père Arnaud Favard. Père Arnaud Favard, peut-être deux mots de présentation, puisque non seulement vous êtes prêtre, mais surtout vous avez une dynamique très forte vers le rural.
Voilà, je suis depuis 3 ans délégué à la mission rurale. C'est un service de la Conférence des évêques de France qui s'efforce de faire résonner tout ce qui se passe dans la vie rurale et les efforts de l'Église pour dire sa présence, son espérance, sa proximité auprès de tous les ruraux. Voilà, ce ne sont pas des territoires éloignés, abandonnés, mais ce sont des territoires auxquels l'Église veut rester présente comme elle l'a été pendant des siècles.
Alors, cher Père Favard, d'abord merci de nous accorder ces quelques minutes avant la conférence. Mission rurale, ça a été aussi l'émetteur et le promoteur pour la conférence d'évêques de France de Terre d'Espérance. Hein, et nos auditeurs ont connu toute cette phase Terre d'Espérance 2020-2022 aussi sur le diocèse de Tarbes-Lourdes. Et que reste-t-il aujourd'hui de Terre d'Espérance, justement?
Oui, Terre d'Espérance a levé une belle espérance voilà, dans les diocèses. Nous étions nombreux. Et donc, il nous a été demandé à Mgr Noblot, évêque de Saint-Flour et moi-même, de coordonner une équipe nationale de la mission rurale. Voilà, où il y a 25 représentants de différents diocèses ou provinces de France. Et nous essayons d'être attentifs à ce qui se passe. Et donc, les 3 pistes de la mission rurale, c'est d'abord la piste observatoire. Hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires ruraux? Qu'est-ce qu'on observe comme mutation, comme transition, constat aussi de difficultés, d'éloignement, des services. C'est un sujet qui est largement abordé, mais on voit bien que les habitants du rural aiment leur territoire et veulent le faire vivre. Et donc, ils ont à cœur que ces services, que cette proximité, elle soit là, que ce lien social soit vivant. La deuxième chose, c'est l'esprit de laboratoire, hein, mis au pied du mur. Donc, l'Église en rural se trouve face à des défis en disant s'il n'y a plus de prêtres, s'il y a moins de chrétiens, l'Église est terminée ou on fait quelque chose, quoi, hein, donc, on voit bien émerger aujourd'hui d'autres formes de vie d'Église. D'autres formes de chrétiens qui se retrouvent autour de la prière, autour de la parole de Dieu, autour de l'engagement, du service de leurs frères. Voilà. Et la troisième piste, c'est comment être signe à nos contemporains. Qu'est-ce qui fait signe aujourd'hui, quelle que soit leur opinion, quel que soit leur âge, quels que soient leurs engagements, qu'est-ce qui fait signe et signe d'espérance, bien sûr.
Un super programme pour nos territoires ruraux. Nous, on le vit pleinement ici sur ce diocèse. Et dans ce cadre précis, au travers de cette description de ce qui fait espérance, dans votre expérience à vous et par rapport aux rencontres que vous avez avec les différents délégués dans l'ensemble du territoire, comment vous voyez la crise d'aujourd'hui, la crise agricole qui est au cœur du rural? Comment vous voyez, comment l'Église accompagne un petit peu toute cette souffrance qu'on peut entrevoir?
Oui, cette crise, je la vois, je la constate comme tous les ruraux. Hein. C'est une crise j'allais dire, c'est une crise de croissance. Alors, pas seulement parce qu'on se développe, mais on est arrivé à la fin d'un modèle productif, où toute une génération a permis de nourrir à bas coût toute la France et même à exporter. Et aujourd'hui, on voit bien que ce modèle est en train d'éclater, que les terres sont intransmissibles parce que ça représente des coûts très élevés, que l'endettement est lourd. Hein, je veux dire, le machinisme, je veux dire, il a libéré les corps, voilà, mais bon, il entraîne aussi un endettement lourd. Voilà. Et donc, comment aujourd'hui revenir à une production agricole qui soit plus en rapport avec des filières locales, avec le goût, avec les consommateurs aussi, ce qu'ils apprécient. voilà, moins standardisé, mais plus responsable. Voilà. Et en ce sens-là, une écologie, une agroécologie est plus respectueuse des territoires, plus respectueuse du local. Et on voit aujourd'hui des conversions et des attentes fortes dans ce domaine.
Et donc on voit que l'Église justement a des choses à dire autour de ça, de comme vous le dites, de cette crise. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut évoquer en même temps, puisque vous êtes là pour une conférence sur Laudato Si, évoquer aussi le fait que Laudato Si, c'était l'encyclique de notre pape François. On a changé de pape, maintenant c'est Léon XIV. Ben, avoir un petit peu votre regard justement sur Laudato Si, ce qui anime aussi pas mal nos territoires, et puis sur la suite avec ce pape.
Oui, l'écologie, je veux dire, c'est devenu un mot presque clivant, quoi. Hein, alors que c'est une manière de regarder la terre, une manière de regarder les plantes, les animaux, tout ce qui nous entoure, comme ceux avec qui... on travaille, nous ne vivons pas sur la terre, nous vivons avec la terre. Voilà. Et ça, cet enseignement, c'est comment vivre en alliance avec les plantes. Et moi, je vois des maraîchers, je vois des cultivateurs observant avec attention la vie des plantes, la vie des animaux, évoluent dans leur manière de faire. Hein, donc, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Il ne faut pas le faire en donnant la leçon, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec un sens de l'observation, un sens pratique qui aide à mieux évoluer et avoir des performances plus en rapport avec une nourriture saine que tous attendent qu'en volume et en bas coût qui ne nourrit pas et qui plonge dans le désarroi les agriculteurs qui triment pendant des heures et des heures et qui, au bout du compte, n'arrivent pas à vivre dignement.
Oui, et la difficulté pour eux, c'est aussi ce changement de paradigme qui est proposé, puisque bon, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. C'était nécessaire, c'était un peu la commande de l'Europe. Et puis aujourd'hui, on leur explique que d'un seul coup, tout ce qu'ils ont fait, il faut le remettre en cause. Et il faut être humble, observer un petit peu la nature et du coup, faire cette transition agroécologique. Et on sent bien que c'est difficile. Et du coup, l'Église a sa place, sans doute. Comme vous l'avez dit, être là pour aussi les écouter, pour voir, observer, et puis éventuellement les accompagner dans cette réflexion, dans cette conversion intégrale, si on peut dire.
Oui, certains peuvent dire, ou l'on dit, l'Église nous abandonne, elle n'est plus à nos côtés. Voilà. Et donc, comment inverser la vapeur et se dire non, on est là, on est bien là, on n'a pas de leçon à donner, on a plutôt à se retrousser les manches avec vous, à être attentif à ce qui est humainement et terrestrement, voilà, excusez-moi de l'expression, mais ce qui est possible, hein, il ne s'agit pas d'aller plus vite que possible, hein, il s'agit de respecter à la fois la terre, mais aussi de nourrir une région, nourrir des villes. C'est aussi l'espérance des jeunes dans les lycées qui m'arrive de rencontrer dans les lycées agricoles, hein, de vivre dignement, de pouvoir faire vivre une famille et de vivre à une échelle raisonnable qui permette... Parce que beaucoup de jeunes disent non, on ne veut pas vivre comme nos parents, quoi, c'est pas possible. Hein. Donc il faudrait aussi redévelopper des vocations agricoles et permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir s'installer, parce que le désir d'agriculture n'a pas disparu chez les jeunes. C'est la difficulté de l'accès à la terre, l'accès au foncier qui est difficile, surtout si ça comporte un nombre d'hectares très important, quoi. Comment revenir à des surfaces plus petites, mais plus raisonnables, avec beaucoup plus d'agriculteurs et une agriculture biodiversifiée, voilà.
Alors, cher Père Favard, vous êtes ici aussi dans le cadre de la semaine Laudato Si à la Cité Saint-Pierre. Laudato Si, c'est il y a 10 ans. Et qu'est-ce qui reste de Laudato Si aujourd'hui et quelles sont les espérances qu'on peut porter derrière cette belle encyclique ?
L'encyclique n'a pas pris une ride, hein, pour moi. Au contraire, je veux dire, reste encore à découvrir. Et donc, l'invitation de la Cité Saint-Pierre m'a paru très intéressante en disant comment dans ce parc d'une quarantaine d'hectares où viennent beaucoup de bénévoles du Secours catholique, elle peut être une vitrine, un exemple pour de réalisation de l'Odatu 6, ce qui veut dire que les espaces verts, les zones humides, les arbres, l'entretien, la manière de l'entretenir peuvent être une école aussi, une vitrine pour tous, pour dire, bon, qu'est-ce que c'est qu'une terre propre? C'est pas une terre où le gazon est à 3 cm et est superbe, mais c'est une terre aussi où les insectes peuvent se nourrir parce que la floraison est magnifique, où les arbres peuvent nicher sur les oiseaux, où les vaches peuvent brouter. Et donc, les pâtures permettent de réinstaller les troupeaux, les oiseaux peuvent s'abriter, les zones humides abritent aussi les oiseaux, les insectes aussi, qui fournissent aussi toutes sortes d'éléments, les vers de terre, voilà, tout ce qui ne se voit pas. Les champignons aussi constituent un réseau formidable et fabuleux qui multiplie la possibilité pour les arbres d'aller chercher l'eau. Hein, alors bon, là, en ce moment, c'est humide, mais on a connu des périodes de sécheresse difficiles. Hein. Comment créer des alliances entre les plantes, les animaux et les hommes pour que, justement, cette terre porte du fruit, hein. Et ça, c'est l'Évangile. Hein, Jésus nous a dit, voilà, portez du fruit en abondance et partagez-le avec tous.
Alors, ce sera ma dernière question, cher Père Favard, parce que vous êtes passionnant, hein, dans l'investissement que vous portez et le regard que vous portez. Et la question que je pose traditionnellement à tous les gens que je rencontre, c'est un petit peu la question autour de votre espérance à vous, pour les temps qui sont maintenant comptés autour de notre vie et de notre société. Là, quelle est votre principale espérance dans le contexte actuel?
Alors, dans la lettre de mission que j'ai reçue, ça reprend la phrase dite par Jean-Baptiste sur le bord du Jourdain, le peuple était dans l'attente. Et comment transformer des attentes en espérance? Et donc ces attentes que nous pouvons avoir de toutes sortes, hein, comment on transforme en espérance? Et pour moi, l'espérance, c'est lié à l'alliance, c'est-à-dire à la manière de coopérer ensemble, de vivre ensemble, d'avoir un bien-être à vivre ensemble, en se respectant, en s'appréciant, en apprenant les uns des autres. Et en apprenant aussi des générations différentes, aussi bien des plus anciens que les jeunes aussi, qui, avec leur culture numérique, peuvent aussi apprendre de cet outil que, je veux dire, à un certain âge, on n'a pas appris à maîtriser, quoi, hein. Donc, comment faire alliance, voilà.
Merci infiniment, cher Père Favard. C'était passionnant. À bientôt. Au revoir.